Vanessa, Sophie, Clara, Christelle, Isabelle, Stéphanie et tant d'autres femmes. Elles ont décidé de créer leur activité professionnelle. Fini le salariat, le cœur avant la raison. Il était temps pour elles d'exploiter leurs talents, de se mettre à l'ouvrage, de tracer leur propre voie. Un pari fou et risqué pour beaucoup. L'occasion pour elles d'exprimer leur potentiel et de respecter leur rythme. Autrement, l'émission qui recueille les témoignages de ces femmes hors normes. Bienvenue sur Studio Zef, où aujourd'hui je reçois Élodie qui fait du conseil pour optimiser vos projets ou gérer votre patrimoine. C'est bien ça, Élodie ?
Dans les grandes lignes, oui, c'est ça.
Comment vas-tu ?
Écoute, je vais très bien.
Comment t'es venue l'idée de te mettre à ton compte ?
Alors, l'idée, elle n'est pas venue en tant que telle de me mettre à mon compte. Elle est venue de changer d'activité et le hasard faisant, les étoiles s'alignant, je me suis retrouvée à me mettre à mon compte un peu par hasard, même si j'avais toujours eu cette envie, cette idée qu'un jour, je volerais mes propres ailes.
Voler de ses propres ailes, c'est une jolie expression. Qu'est-ce que tu y mets ?
Qu'est-ce que j'y mets ? J'y mets l'autonomie dans la façon de gérer mon activité, de fixer mes propres objectifs, de mettre le sens que je souhaite mettre dans mon activité. Surtout ça, cette histoire de sens.
Explique-nous un petit peu ton métier, parce que j'ai fait une présentation un petit peu floue, mais exprès, parce que j'ai l'impression que ton activité est quand même assez étendue. Donc, peux-tu nous expliquer ?
Oui, tu as raison, mon activité, elle est très très large. Pour faire simple, je dis souvent que j'aide mes clients à atteindre leurs objectifs de façon optimisée et sécurisée par le levier financier. C'est-à-dire que je vais pouvoir intervenir dans plein de champs différents, mais toujours dans l'idée de permettre à mes clients d'aller plus vite dans la réalisation de leurs projets. On a tous des envies de voyage, de financer les études des enfants, de préparer sa retraite, d'investir dans l'immobilier pour justement préparer sa retraite ou les études des enfants, etc. Mais on ne sait pas forcément comment s'y prendre. On ne va pas savoir quel levier activer, on ne va pas oser pousser la porte d'une banque ou d'un établissement financier. Puis même si on y va, la banque, elle a toujours ses propres objectifs à elle avant ceux des clients. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir prendre en considération toutes ses envies, ses aspirations et la situation de la personne à l'instant T pour pouvoir l'accompagner dans la réalisation de ses objectifs.
Alors, ces objectifs, tu as parlé préparer un avenir financier que les personnes ont pour atteindre leur projet, quel qu'il soit, on est bien d'accord.
Ouais.
Donc, on parle de finances dans un monde qui est quand même très, très secoué au niveau financier.
On est d'accord.
Et comment tu arrives à rassurer les gens dans ce monde où tout le temps, on a l'impression qu'on va vous prendre de l'argent ici, on va prendre de l'argent là. Comment tu peux leur dire, vous inquiétez pas, on peut en faire quelque chose de cette histoire.
C'est ça, c'est qu'en fait, moi déjà, je suis indépendante. Ça veut dire que je n'ai pas de compagnie derrière moi qui va me fixer des objectifs et qui va me dire ce qu'il faut que je vende à mes clients. En fait. Donc je pars vraiment de la situation de mes clients. Et le premier rendez-vous, il est là pour ça, il est là pour faire connaissance. Je pars de ce premier rendez-vous, on a passé 2 heures ensemble, j'ai absolument rien facturé, on a juste fait connaissance, réciproquement. Je me suis présentée, ils se sont présentés, et à la fin de ce rendez-vous, on définit seulement si on se revoit ou pas. Donc déjà, c'est un rendez-vous où, si ça matche pas, on se revoit pas. Alors très sincèrement, ça m'est très 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 rarement arrivé. Mais voilà, si ça matche pas, on se revoit pas et on en reste là. Et si ça matche, ça veut dire qu'il y a un lien de confiance qui s'instaure. Et là-dessus, j'insiste beaucoup auprès de mes clients. Il faut qu'ils soient en confiance. Et il faut vraiment qu'ils comprennent ce que je peux leur apporter et les solutions que je leur propose. L'idée, c'est pas qu'ils signent au bas du papier au bout de 10 minutes juste parce que je leur ai fait un joli sourire et que j'ai été sympathique. L'idée, c'est vraiment qu'ils comprennent ce que je leur propose de leur apporter. Et s'ils ont envie de signer, ils le signent. Et s'ils n'ont pas envie de le signer, ils le signent pas. Mais par contre, il faut qu'ils m'expliquent pourquoi ils le signent pas, parce que ça veut dire que moi, il y a un truc à côté duquel je suis passée.
Comment les gens peuvent venir à te rencontrer ? Est-ce que c'est le bouche-à-oreille qui fonctionne ? Est-ce que tu t'exposes beaucoup sur un média ou sur un autre ? Comment ça se passe ? Comment on te rencontre ?
Alors, en tant que bonne chargée de com, ancienne chargée de com, je ne fais aucune com. J'ai pas de site internet, il est en construction depuis 3 ans, j'arrive pas à le sortir. Voilà, enfin, je fais très peu de communication. Donc oui, mon média de diffusion, c'est le bouche à oreille, c'est mes clients, c'est la meilleure pub en fait, la satisfaction des gens. Donc c'est vrai que ce que j'explique à mes clients, c'est que ou aux gens que je rencontre, qui vont pas forcément devenir clients, c'est que je ne facture aucun honoraire. Par contre, je leur demande de mettre en relation avec des gens qui sont ok pour me rencontrer seulement sur un premier rendez-vous. Pas de m'amener de la clientèle, mais des gens qui ont juste envie d'un premier rendez-vous pour faire le point sur leur situation. Ça s'arrête là. Le bouche à oreille, c'est la meilleure pub qui soit, et notamment dans mon domaine où on va pas aller exposer sa situation financière à n'importe qui juste parce qu'on a vu une petite annonce dans un journal. Ça n'a pas de sens. Enfin, mon sens en tout cas.
J'ai très envie de revenir en arrière sur, tu as évoqué le fait qu'avant tu étais chargée de com. Raconte-nous ton parcours depuis toujours, à partir du moment où tu veux en fait.
Au départ, quand j'étais petite, je voulais bosser dans le tourisme. Donc j'ai fait un bac littéraire avec 3 langues vivantes. Je parlais couramment allemand, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, voilà. Et puis je me suis rendu compte que pour installer une vie de famille, ça allait être compliqué de bosser dans le tourisme et j'avais très envie d'une vie de famille. Donc je me suis dirigée plutôt vers la communication et notamment les relations presse. Mais c'était une école qui coûtait très cher. C'est une école privée que je visais qui coûtait très cher. Et donc mes parents m'ont dit bah, ce serait bien que tu fasses un bout dans le public quand même. Et puis en même temps, ça me permettait d'avoir une deuxième corde à mon arc. Donc j'ai fait un IUT technique de commercialisation pendant 2 ans, qui m'a permis ensuite d'intégrer l'école de communication que je visais à Bac plus 3 et de ne faire que 2 ans dans cette école au lieu de 4. Donc j'ai décroché ma maîtrise de communication, spécialisation relations presse, relations publiques et événementielles. Et puis, par amour, je suis revenue sur Blois, d'où je suis originaire, parce que j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, qui l'est toujours, et qui n'avait pas du tout envie d'une vie de famille parisienne. Donc je suis revenue sur Blois, j'ai été chargée de communication pour le même organisme pendant 17 ans, donc un organisme public, enfin privé au service du public, qui est déjà un organisme social. Et puis, comme beaucoup de monde, épuisement professionnel, notamment après les premiers confinements Covid, et puis des ressources qui s'amenuisent, parce que la communication dans les services publics, c'est pas le service sur lequel on mise le plus, malheureusement. Donc je savais que les beaux jours étaient passés, et ça faisait déjà quelques temps que je me disais qu'il allait falloir que je change. Et puis, voilà, après ce premier confinement, j'ai discuté avec le papa, la meilleure amie de ma fille, qui m'a dit « Je vois que ça va pas dans ton boulot, ce serait bien qu'on discute parce que je te verrais bien dans mon boulot. » Et puis effectivement, on a pris le temps d'en parler. Puis les choses se sont installées progressivement, de réflexion en réflexion, et puis de plus pouvoir. Puis c'est pas facile hein, de quitter un poste où on sait qu'on a le confort des 35 heures, le salaire qui tombe tous les mois, et la sécurité de l'emploi, parce que j'avais quand même cette sécurité de l'emploi. Hein. Je savais que je donnais satisfaction à mon employeur et que voilà, ils n'avaient pas forcément envie de que je parte, même s'ils n'avaient pas les moyens de faire beaucoup plus que ce qu'ils faisaient déjà, sauf à me donner d'autres missions, mais qui allaient encore plus me charger. Donc voilà, le chemin s'est fait. Et puis, je me suis dit que finalement, ces études de commerce que j'avais fait au départ, même si aujourd'hui, je ne me vois pas du tout comme une commerciale, je me vois vraiment comme une conseillère. Malgré tout, dans le fait d'être en face à face avec un client ou un prospect, ça m'aide à être plus à l'aise. Même si je suis très loin des techniques commerciales, dans l'entre-gens, en tout cas, ça aide.
Est-ce que tu as eu un moment, alors tu parles de ce moment délicat hein, où on quitte le cocon du salariat pour te mettre à ton compte, et est-ce que tu as eu un moment un peu de, on va dire, de repli sur toi, de descente un peu en profondeur où tu t'es... vraiment comme si tu avais perdu un peu pied, par exemple?
Oui. Oui, complètement. D'autant plus que j'étais en épuisement professionnel. Donc, pour le coup, j'ai eu 6 mois, ouais, je vais dire 6 bons mois, pour pas dire plus, de réflexion. De est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que c'est raisonnable, parce que j'ai aussi une ado à la maison, on a une maison à payer, enfin voilà, comme tout le monde. Hein. Est-ce que je vais pas mettre ma famille en danger en faisant ça? Ce qui a été déterminant à ce moment-là, c'est d'être bien entourée. C'est d'avoir un mari qui a cru en moi plus que moi-même.
Très beau cadeau.
Ouais. Lui m'a dit tout de suite, mais il faut que tu le fasses. C'est un métier qui est fait pour toi. Il faut absolument que tu le fasses. Sinon, tu vas le regretter.
Si, je crois.
Mais c'est normal. C'est une aventure familiale, en fait. Oui. C'est pas une aventure individuelle. C'est une aventure familiale. Et puis, quand mon ado, qui n'était pas encore tout à fait une ado à l'époque, me disait, mais de toute façon, t'es jamais à la maison. Et même quand t'es à la maison, t'es pas là parce que t'es trop fatiguée. ça fait réagir, forcément. Oui. On se dit qu'il faut changer, qu'il faut faire quelque chose. Donc finalement, je savais que dans la communication, j'étais plus concurrentielle.
Oui.
Parce que j'avais passé 17 ans dans le même établissement, que j'avais pas été formée aux nouvelles méthodes, aux nouvelles techniques. Donc par rapport à des petits jeunes qui arrivaient sur le marché, j'étais complètement hors jeu. Donc il fallait trouver autre chose, il fallait trouver un plan B. Et vraiment, quand on m'a parlé de ce métier, je me suis dit que oui, effectivement, accompagner les gens à réaliser leurs projets, ça c'était un truc qui me parlait. Moi qui venais en plus de la fibre sociale, qui me parlait tellement. Oui, c'était effectivement pouvoir aider les gens, c'est mon truc.
Alors, quand ton levier, il est financier, on imagine que les gens qui viennent te voir, déjà, à la base, ils ont un minimum d'argent de côté.
Eh bien, pas forcément. Pas forcément, parce qu'il y a effectivement ceux qui ont déjà un petit patrimoine ou un gros patrimoine et qui ont juste, entre guillemets, besoin de conseils pour se dire « Est-ce que j'ai fait, c'est bien ? Qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Comment je peux aller plus vite ?» Et puis, il y a aussi tous ceux qui... Alors, soit n'en ont pas, soit ont l'impression de ne pas en avoir, parce que ça arrive aussi, qu'on se dise « Non, mais moi, j'ai une toute petite situation. » Mais il n'y a pas de petite situation, en fait. Tout ce qu'on a commencé à faire, c'est déjà vachement bien de l'avoir fait. Et puis, oui, il y a des gens qui ont juste envie de commencer et de mettre le pied à l'étrier. Et dans ces cas-là, c'est aussi très chouette, parce qu'on a tout à construire. Donc, il y a vraiment de tout. Je peux avoir des jeunes actifs qui viennent de décrocher leur CDI et qui, pour autant, ont déjà conscience qu'il va falloir qu'ils économisent pour leur retraite dans on ne sait pas combien de dizaines d'années, que des gens qui ont déjà constitué un patrimoine, qui ont envie de le transmettre ou qui ont juste envie d'en profiter maintenant qu'ils se sont donné le mal de le construire. Et puis, il y a l'entre-deux, de couples qui ont des enfants, qui ont commencé un petit peu, mais qui ne savent pas trop parce que le banquier, il a changé souvent et du coup, ils ne savent pas trop qui c'est, ils ne savent pas trop s'ils peuvent lui faire confiance ou pas. Ou alors, qui sont très bien avec leur banquier, mais qui ont quand même ce sentiment que ça touche à ses limites. Et qu'il y a peut-être autre chose à faire. Et effectivement, il y a d'autres choses à faire. Donc vraiment, je peux toucher tout le monde, quoi. Et c'est ça qui est chouette.
J'ai entendu dire récemment que les Français n'avaient pas de culture financière, qu'on ne leur apprenait pas à gérer leurs finances. Comment tu te places par rapport à ça?
Ah mais ça, c'est criant. C'est criant. Et c'est vraiment, je pense que c'est des choses qu'on devrait apprendre à l'école, à gérer un budget familial. Moi, je rencontre des gens aujourd'hui qui ont 50 ans passés et qui n'ont jamais appris à gérer leur budget. Parfois, je suis obligée de passer par cette étape-là, alors obligée entre guillemets, hein, parce que de l'information générale, en fait, j'en donne dans le premier rendez-vous. Je donne les premiers leviers, je donne les premières infos, entre guillemets, basiques de comment on fait pour se constituer un petit patrimoine ou en tout cas de vivre correctement au quotidien. Et oui, parfois, je suis obligée de reprendre vraiment les bases et il peut m'arriver de donner un tableau de budget à mes clients en leur disant maintenant en fait vous avez des salaires convenables, pour autant vous avez l'impression de pas réussir à boucler les fins de mois, il faut que vous analysiez pourquoi. Et ça, je peux pas le faire à leur place, pour le coup c'est pas mon rôle, mais je peux les accompagner dans cette démarche là donc je leur donne un tableau et puis ils le complètent en disant moi, je dépense tant pour telle dépense, telle ligne c'est tant. Et puis parfois, ils se rendent compte, j'ai en tête une cliente qui, ils avaient de salaire correct et puis ils avaient vraiment, ils n'arrivaient pas à épargner. Et quand on en a discuté, elle me dit « Ah ben oui, mais en fait, j'achète pas cher, mais j'achète beaucoup sur Vinted ou autre. » Et quand je l'ai revue la fois d'après, elle m'a dit « Mais en fait, j'ai mis en place ce que tu m'as conseillé et j'ai réussi à économiser 200 euros dans le mois. »
Donc, c'était pas grand-chose.
Donc, c'était pas grand-chose à chaque fois, mais mis bout à bout. Finalement, 200 euros économisés tous les mois, c'est pas rien.
Alors là, on est parti dans un exemple. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Et pour poursuivre un peu dans l'exemple, quelle est la personne la plus jeune qui a eu recours à toi?
Je crois qu'il a 23 ans. Ouais, 22 ou 23. Il avait 22 ans, parce que je lui ai souhaité son anniversaire il n'y a pas longtemps.
D'accord.
C'est 23 ans, il n'y a pas longtemps. Donc voilà, un jeune actif qui a décroché son premier CDI au mois de septembre. Comme j'avais déjà rencontré ses parents m'ont dit ça peut être bien que tu le rencontres. Et voilà. Et il avait à peine décroché son CDI que je commence déjà. Et lui, il avait déjà en tête. Alors, il a plein de projets. Donc, je veux dire, je ne vais pas chercher le maximum de sa capacité d'épargne parce que je sais qu'il en a besoin pour d'autres choses à court terme. Mais il a déjà mis le pied à l'étrier de économiser pour ma retraite.
Ah oui, quand même.
Ouais. 100 euros par mois. Okay. Mais 100 euros par mois, dans 40 ans. Ça aura fait des petits.
Non, c'est clair. Quel levier tu utilises, par exemple, pour quelqu'un qui a une toute petite somme? Tu ne vas pas l'emmener dans l'investissement immobilier, par exemple?
Bien sûr que non. Quoique, ça dépend.
Oui.
quoique ça dépend. Quelqu'un qui a une... Alors nous, on appelle ça la capacité d'épargne, en fait, ce qui nous reste une fois qu'on a réglé toutes nos factures habituelles et qu'on peut quand même se faire plaisir, hein, parce que l'idée, c'est pas non plus d'avoir la corde au cou. Quelqu'un qui a une petite capacité d'épargne, mais qui a une grosse capacité d'emprunt, par exemple, bah pourquoi pas ? Pourquoi pas se lancer dans un projet immobilier ? Mais tout ça, c'est des choses qui sont à définir avec la personne que j'ai en face de moi. Est-ce que l'achat immobilier, ça la fait vibrer ou pas du tout ? Si ça la fait pas du tout vibrer, bah on va pouvoir s'orienter vers d'autres choses, vers du placement ou parfois aussi, j'ai des gens qui ont pas du tout de patrimoine déjà constitué. Et je leur dis, mais si demain il vous arrive quelque chose, c'est catastrophique pour les gens qui sont autour de vous. Donc en attendant de constituer ce patrimoine, parce que ça met un peu de temps à le constituer quand même, on va trouver des solutions d'assurance. Alors c'est les choses que je fais un peu en dernier recours, parce que c'est du fonds perdu et c'est pas ce que j'aime, parce que pour moi ça n'a pas de sens de mettre son argent à fonds perdu. Mais ça n'empêche que c'est des choses qui sécurisent sur une courte durée le temps de faire autre chose.
Revenons à toi. À quel moment tu t'es sentie sécurisée par rapport à ton nouveau travail ?
Ça fait 4 ans que je suis dans un circuit, ça fait 3 ans que je suis vraiment immatriculée, lancée. Parce qu'il y a eu une bonne année de formation en binôme, voilà. Donc ouais, à peine 4, ouais, 3 ans et demi, on va dire, et 3 ans que je suis vraiment installée. Mais je crois que c'est l'entrepreneuriat, en fait. L'entrepreneuriat, c'est ce qu'on appelle chez nous un profil dynamique, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables d'accepter les montagnes russes et qu'il n'y a pas un mois qui ressemble à l'autre. Ouais, il n'y a pas un mois qui ressemble à l'autre et il n'y a même pas une année qui ressemble à l'autre. Je me rappelle que en 2023, le début d'année avait été très, très calme. En 2024 aussi, et cette année, le début d'année, il est sur les chapeaux de roue. Et puis, je pense qu'on a nous-mêmes aussi à se caler en fonction de ce nouveau rythme d'entrepreneur. On peut se dire, bah, ça va, ça fait 3 ans et demi qu'elle y est, maintenant elle devrait trouver son rythme. Bah, en fait, non, toujours pas, parce qu'on met des nouvelles choses en place et que les choses, elles bougent. Et que je pense que quand on est entrepreneur, on n'est pas dans le routinier, dans le quotidien. Donc, on a toujours envie de découvrir des nouvelles choses. En tout cas, c'est mon cas. Découvrir des nouvelles choses, de se former à de nouveaux trucs. Et du coup, moi, je n'ai pas une semaine qui ressemble à une autre.
Qu'est-ce que tu as apporté de nouveau dans ta façon de travailler en 2024 ?
Qu'est-ce que j'ai apporté de nouveau dans ma façon de travailler ? Alors, de vraiment nouveau, rien de particulier, je crois. Mais en fait, je suis sur un domaine qui bouge beaucoup. Et donc, et comme je le disais, je n'ai pas une journée qui ressemble à une autre. Je n'ai pas un client qui ressemble à un autre. Donc, je suis tout le temps en train de me former. Donc, je vais toujours découvrir des nouvelles solutions parce que comme les besoins de mes clients, ils sont tous différents, je vais aller chercher ce qui va leur convenir le mieux. Et du coup... même si je change rien dans ma façon fondamentale de travailler. Alors si j'ai changé des petites choses, par exemple, mais ça c'est des choses d'agenda, c'est de l'organisation quoi. C'est de se dire bon je prends pas plus de temps de rendez-vous par semaine parce que sinon j'y arrive pas. Et je veux vraiment apporter de la qualité à mes clients, donc il faut que j'ai le temps de travailler sur leur dossier. Donc par exemple là, moi j'ai pour les premiers rendez-vous, je sais que j'ai un agenda à 2 mois.
D'accord.
Je peux pas donner un rendez-vous à moins de 2 mois à un nouveau client parce que entre-temps, je travaille pour ceux que j'ai déjà rencontrés.
Suite à un premier rendez-vous, tu vas passer combien de temps, un premier rendez-vous où là tu as vraiment une accroche, tu vas passer combien de temps toi de travail personnel derrière ? Est-ce que tu peux le chiffrer ?
Ça dépend vraiment des situations. Mmh. Ça dépend vraiment des situations, mais en moyenne, on va être sur du 5, 6, 7 heures. Enfin, ouais, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. On a déjà 2 heures de rendez-vous découverte. Après, il y a tout le temps d'analyse du dossier, de recherche de la solution, de paperasse aussi. On a tout un temps de paperasse. Et puis, les rendez-vous avec moi, c'est jamais un quart d'heure. Ça n'arrive pas.
Est-ce que tu es capable comme ça de définir un rythme de travail, enfin dire voilà je travaille à peu près tant de temps par semaine ou par mois et est-ce que ça impacte tes soirées, est-ce que ça impacte tes week-ends, comment tu t'organises ?
Alors les soirées, oui ça impacte certaines soirées. J'essaye de pas avoir plus de rendez-vous clients en fin d'après-midi, je le fais pas trop tard non plus parce que les gens ont leur journée de travail dans les pattes et ils ont plus la capacité de concentration nécessaire ni la disponibilité, ce que j'entends complètement. Donc voilà, je commence un rendez-vous maximum 18h30, c'est le grand max. Et j'essaye de pas avoir plus de rendez-vous à 18h30 dans la semaine parce que j'ai ma famille aussi et que je veux la préserver. Puis qu'en plus, je fais du théâtre le lundi soir, donc voilà, ça c'est important aussi pour moi d'avoir cette soupe à plat. Et les week-ends, alors j'ouvre les samedis matins. Enfin, j'ouvre mon carnet de rendez-vous, hein, parce que c'est pas un bureau, mais j'ouvre mon agenda les samedis matins. Mais les samedis matins, en fait, ils sont souvent très, très pris, parce que j'ai beaucoup de gens qui veulent des samedis matins. Après, je m'aperçois aussi que si j'ouvre pas le samedi matin, les gens, ils arrivent à comprendre ça. Et finalement, parfois, il y a un peu que moi que ça gêne. Oui. Donc, voilà, je les ouvre quand vraiment je sais que pour les gens, c'est pas possible de faire autrement. Sinon, j'essaie de limiter aussi. Et après, dans la semaine, par contre, l'amplitude, comme je te le disais, elle est assez large, quoi. Ça peut aller jusqu'à du 18h30 deux fois dans la semaine, sans problème. Je garde mon mercredi après-midi parce que je suis le taxi de mon ado le mercredi après-midi, comme beaucoup de mamans. Mais voilà.
Et dans tout ça, alors, un équilibre donc par rapport à tes heures de travail, ton équilibre par rapport à être disponible de ta fille, pour ta fille, pardon. Tu as parlé du théâtre le lundi soir. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour préserver ton équilibre et surtout ne pas t'épuiser ?
Alors ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Donc, j'ai ma soupape du lundi soir. J'ai mes mercredis après-midi, même si en fait, mercredi après-midi, quand je ne suis pas entre deux taxis, je fais tout l'administratif à la maison. C'est juste que je ne prends pas de rendez-vous le mercredi après-midi. J'essaye quand même, à chaque vacances scolaires, si ce n'est pas une semaine complète, c'est au moins quelques jours pour couper et pour me consacrer à ma fille, à moi. Je ne travaille pas les samedis après-midi, les dimanches. Vraiment, quand je dis je ne travaille pas, c'est je n'ouvre pas l'ordinateur.
Très bien. Est-ce que tu pourrais avoir un seul regret par rapport au salariat ou vraiment c'est la page, elle est vraiment tournée ?
Non, je crois que la page, elle est vraiment tournée. Le seul regret, ça peut être le revenu fixe qui tombe tous les mois, mais même plus parce qu'aujourd'hui, le revenu minimum, entre guillemets, que je me suis fixé, qui tombe tous les mois, je l'ai. Donc non, la page, elle est tournée et on peut jamais dire jamais. Peut-être qu'à un moment donné, pour une raison X ou Y, j'aurai besoin d'y revenir. Je pense que ce sera compliqué. Je pense que ce sera compliqué et en même temps, je pense que si je devais y retourner, je saurais mettre les limites. Oui. Ce que je n'ai pas forcément su faire quand je suis arrivée avec mon tout jeune âge à un poste qui avait déjà quelques responsabilités.
Oui, tu as aussi gagné de la bouteille avec les années,
c'est
hein, clairement.
C'est ça, oui, on gagne en maturité.
Quelle est, à l'heure actuelle, alors ça y est, les choses se sont stabilisées, quel est le projet que tu aurais là dans le développement de ton activité ? Qu'est-ce qui te titille ?
La formation. J'ai très envie de former des gens à mon métier.
À ton métier ?
Ouais, d'accord. Pour les emmener avec moi dans l'aventure. En fait, j'ai ce double métier. On a parlé de tout le volet clientèle, mais dans mon métier, dans le réseau au sein duquel j'exerce, alors qu'un réseau d'indépendants, on travaille tous chacun à notre façon, l'idée c'est juste de mettre en commun nos pratiques et de pouvoir échanger sur des dossiers. Mais dans ce réseau-là, en fait, on y arrive par cooptation et on se forme réciproquement. Et donc j'ai très très envie aujourd'hui de pouvoir offrir l'opportunité qui m'a été offerte à d'autres et de les voir s'épanouir comme moi je m'épanouis.
Là, tu parles d'un sujet qui est quand même très important pour les auto-entrepreneurs, c'est le réseau.
Complètement. C'est indispensable. Moi, je voulais être indépendante, mais je ne voulais pas être isolée. Encore, je voulais pas forcément. Je te l'ai dit, c'est arrivé un peu par hasard. Mais être isolée, c'était impossible pour moi. Et là, moi, je suis dans un réseau où on est vraiment sur de la solidarité et de l'entraide. Moi, quand on me l'a présenté, je me suis dit, oui, c'est ça, doit bien y avoir un peu de concurrence quand même. Et en fait, pas du tout, parce qu'il y a tellement de travail, il y a tellement de clientèle potentielle que non, on n'est pas du tout en concurrence. Et puis, encore une fois, on travaille chacun à notre façon.
Bien sûr.
Donc, on ne va pas attirer les mêmes personnes.
Tout à fait.
Et on ne va pas travailler pour les mêmes personnes. Et ça, ce réseau, ouais, pour moi, il était indispensable. Et en dehors de ce réseau de confrères et de consœurs, j'ai aussi tout ce réseau associatif et même amical, parce que c'est pour beaucoup devenu des copines, majoritairement des femmes d'ailleurs, d'entrepreneurs qui se sont lancés peu ou prou en même temps que moi, ou parfois bien avant, et qui du coup nous apportent leur expérience. Et ça, c'est essentiel pour moi. Donc ouais, quand tu me disais comment tu fais pour prendre soin de toi, il y a ça aussi. On n'en a pas parlé, mais il y a ça aussi. Ces petites soirées entrepreneurs qui travaillent pas dans le même secteur du tout, et qui pour autant partagent des problématiques qui se rejoignent et puis qui ont besoin de décompresser et de rigoler un petit peu à côté. Donc oui, le réseau essentiel.
Et pour le coup, là, on est loin du réseau social média, mais on est vraiment dans le réseau humain.
Ah oui, complètement. On se rencontre, en vrai.
Comme nous venons d'avoir le plaisir de nous rencontrer aujourd'hui.
Tout à fait.
Je te remercie pour ton témoignage. C'était très intéressant.
Merci à toi. C'était avec grand plaisir. C'était très intéressant pour moi aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Vanessa, Sophie, Clara, Christelle, Isabelle, Stéphanie et tant d'autres femmes. Elles ont décidé de créer leur activité professionnelle. Fini le salariat, le cœur avant la raison. Il était temps pour elles d'exploiter leurs talents, de se mettre à l'ouvrage, de tracer leur propre voie. Un pari fou et risqué pour beaucoup. L'occasion pour elles d'exprimer leur potentiel et de respecter leur rythme. Autrement, l'émission qui recueille les témoignages de ces femmes hors normes.